bienvenue sur BNews USA.
BNews.
Le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des Bayous Louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression Cajun de la semaine. Un podcast à consommer
sans modération.
BNews USA is part of the Podcut family of podcasts.
La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. BNews USA, épisode 287. Moi, c'est Patrice.
Et moi, c'est Stéphane.
Bonjour, monsieur Stéphane. Toujours Stéphane.
Bonjour, monsieur Patrice.
Monsieur Stéphane, j'ai une annonce.
Oui.
Sur nos écoutes.
Mm-hmm.
Une entrée fracassante. Ça, tu vas pas le croire.
Oui.
Entrée fracassante dans nos chiffres d'écoute,
ouais.
Dans nos statistiques,
oui.
De l'Australie, Stéphane.
Ah, mais je crois parce qu'ils savent ce qu'il y a dans mon frigo.
Ah bon?
Ah,
tu crois que c'est ça?
Ah, je sens, ces gens voient tout.
Écoute, Stéphane, ils sont en deuxième position après la France maintenant.
Bravo, vive l'Australie.
Ils ont damé le pion à la Belgique.
Mais qu'est-ce qu'ils font les Belges?
Mais je sais pas, il faut se réveiller, chers auditeurs, auditrices belges. Oh. Alors,
la francophonie.
20% de nos auditeurs sont australiens maintenant.
Ah, ben justement, nous chroniquerons, si nous sommes sages,
ah bon,
une bière australienne.
Ah, mais ça, je le savais même pas, tiens.
Ah, ben non, c'est dans mon frigo.
Ah, ben c'est magnifique.
Voilà.
Urban South, qui n'est pas dans notre frigo pour l'instant, mais j'aimerais bien, sort en ce moment une Dark Czech Lager.
Ouh, ça me plaît, mais faut.
Au goût de chocolat et de café.
Oui, oui.
Qui
oui.
Va s'appeler Tmavé.
Je sais pas.
Moi, je sais pas.
Il parle tchèque, évidemment.
Oui.
C'est pour ça.
Je te montrerai
ça,
la photo.
Ça va sortir ou c'est sorti?
Ça va sorti, je sais pas.
Ça m'intéresse.
Eh bien, oui. Mmh. Je m'en doute bien, tiens. La voilà.
Oh, c'est beau. Ah oui, c'est
Dark Czech Lager.
On va faire un podcast, dire c'est beau, les gens ne voient pas l'image.
Ah ouais, hein. Vous voyez, sur Twitter.
Oui.
Bah, voilà.
Eh bien, ça peut être excessivement intéressant. Voilà.
Oui. Voilà, ça fait partie de... Mais bref, est-ce que vous avez quelque chose, vous? Parce que moi,
oui,
après,
monsieur,
j'ai deux autres trucs. Hein.
Bière sans alcool.
Oui, j'en bois de temps en temps.
Quelle est la marque que tu bois?
Alors, c'est Untitled Art que je bois, moi.
Ah, ben non. Parce qu'en fait, le leader, le roi de la bière sans alcool, pour reprendre le reportage de CNBC, c'est Athletic Brewing Company.
J'en ai acheté, j'ai pas aimé du tout.
Ah, mais attends, non. C'est une bière donc qui est brassée à Milford dans le Connecticut et il propose des bières de 0,01 degré.
Ouais, c'est trop.
À 0,5, je trouve que c'est trop également. Mais ils occupent 19% du marché de la bière sans alcool et sont désormais classés parmi le top 15 des brasseries américaines.
Et moi, j'ai pas aimé. J'ai acheté un six-pack et il m'en reste encore une. J'ai bu la première, j'ai pas trop aimé. J'ai essayé la deuxième, bof. Et puis après, je me suis forcé. Après, je me suis dit, bon, est-ce qu'elle est vraiment comme dans mon souvenir? Et je la versais, oui, elle est comme dans mon souvenir. Et vraiment, je me suis forcé. Alors que Untitled Art, on n'est pas arrivé à trouver une bière normale, alcoolisée, normale, qui nous a plu de cette brasserie. Mais en revanche, les bières sans alcool, elles sont vraiment, vraiment potables.
Ben voilà, leur message, c'est leur bière vise 1% de la population dans 1% des cas. Donc, bon, à mon avis, c'est plus que... mais ça marche, puisqu'ils sont...
Oui, oui.
Ils sont les rois de la binouze sans alcool. Alors, bon, si tu as goûté et que tu n'as pas aimé ça, alors ils ont
non.
Une gamme de produits. Je sais pas,
alors, quinzaine. J'en ai goûté une, attention.
Ouais. Ils en ont une quinzaine. Bon, ben, oui. Voilà, c'était ma brève.
Très bien, mais bon, bravo. On va... Bon, ça sera mon coup de cœur, donc on ne va pas en parler maintenant. Mais
oui.
Mardi, on a fait un truc assez rigolo, quand même.
Oui.
On en parlera tout à l'heure.
Mais il faut que ça sorte, sinon on va passer pour le gros mythomane.
Bah oui, non, mais si, ça va sortir.
Ouais, les mythos. Ouais.
Au moment, les mythos.
Ouais, les mythos. La bière pour chien. Non, la bière,
non. Non, mais au moment où vous entendrez ce podcast, ça sera déjà sorti. Ça sera disponible en quoi
en VHS.
Ouais, mais en replay.
Voilà, tout à fait. Voilà. En rediffusion.
Voilà, c'est ça. Merci. Oui, ça, c'est tellement 20e siècle.
Absolument.
Également, en parlant de médias un petit peu comme ça, Monsieur Ben Blake, voyageur, baroudeur, motocycleur, reporteur, YouTube, eh bien, figure-toi qu'il a fait il a montré en avant-première mondiale sa première vidéo sur les États-Unis au Grand Rex.
Ah, quand même.
Ah oui.
Donc, on y était.
Alors, je sais pas. À mon humble avis, logiquement, on n'est pas dans le premier volet.
Oh.
J'imagine qu'on sera dans... S'il y en a deux, on sera dans le deuxième. S'il y en a trois, on sera dans le troisième.
D'accord.
Parce qu'on est arrivé à la fin de son voyage.
C'est vrai, oui, c'est vrai.
Voilà. Donc, mais peut-être un jour, nos trombinettes au Grand Rex.
Et ben voilà.
Là où j'avais vu Danse avec les loups quand j'étais petit.
Et ben voilà.
Et oui.
La popularité.
La consécration, et on parlera d'une autre consécration tout à l'heure dans mon coup de cœur. Mais j'ai un classement, monsieur Stéphane.
Oui.
J'ai les... alors c'est combien? Attends. C'est combien? C'est les 24 bières à boire avant de mourir.
Oui.
Choisies par des experts, et tu vois la photo déjà. Ce qui m'a attiré l'œil, c'est la Heidi Topper. Donc je me suis dit, bon.
Ça va, mais on l'a bu.
Alors, oui. Alors, on va pas faire les 24 aujourd'hui.
Non.
On va les égrener. On va faire, allez, 5. Allez, c'est les 5 premières. Numéro. Alors, la première. Je sais pas prononcer ça. Là, je suis bien embêté.
C'est Fontainen Oud.
Gueuse Cuvée, Armand et Gaston.
Voilà. Mais nous l'avons bu.
Celle-là, la cuvée Armand Gaston?
Ouais, c'était toujours le beau numéro 3. Ouais, ça coûte un bras, mais nous bûmes quelque chose comme ça.
Mais j'avais même pas aimé. Ça se trouve, moi, j'aimerais plus maintenant. Bon. Mm-hmm. La deuxième, The Alchemist Heidi Topper. Oui.
Oui, bien sûr, bah, ça,
on l'a eu.
C'est un petit peu régalé aussi.
Oui. Troisième, Allagash White. Alors non, ça, j'entends parler tout le temps.
Jamais. C'est fait où?
C'est fait aux États-Unis. Voilà.
Okay.
À Portland, dans le Maine. Et apparemment, c'est une wheat beer délicieuse.
Ah, ben voilà. Écoutez.
Ça fait partie d'une des bières craft américaines les plus cotées, les plus connues.
Donc, il nous faudra la chroniquer.
Ça sera bien, oui.
Ça sera bien, ouais.
Ça, c'est numéro 3. Mmh. Numéro 4. Alors, oh là là, encore un nom que je ne sais pas prononcer, moi.
Badische Straub, Baron Rothaus Pils. Oui, en tout cas, ça m'a l'air allemand, oui.
La Rothaus Pils.
Voilà.
Voilà. Qui est faite dans un autre endroit que je ne peux pas prononcer.
Voilà, mais ça, ouais, ça
Grafenhausen, Rothaus.
Oui, pareil.
Voilà.
Je suis d'accord avec toi.
Et la cinquième. Oh, bah, c'est pas vrai. Ah oui, ça, c'est funny. Ah oui, ça va. Weinheim Stefaner, ça va.
Oui, ça, en plus, on
l'a bu. Le Hefeweizen.
En plus, on l'a bu, ça.
Oui, celle-là, on le trouve partout.
Eh, ben, c'est bien. Dans le top 5, il n'y en a que deux que nous n'avons pas bu.
Oui.
Une allemande et une américaine. Donc, ça donne de l'espoir.
Absolument. Et l'espoir, on va garder l'espoir en écoutant le sonal de la bière de la semaine.
Oui.
Et on va la découvrir ensemble.
Oui.
Alors, moi, je la connais un petit peu.
Non, moi, je ne la connais pas du tout. Elle est dans mon frigo, mais bon, on ne se parle pas.
Ben voilà.
On ne se parle pas.
Tu es arrivé à ne pas la boire.
Oui, oui.
Ah, c'est magnifique. Merci.
On ne se parle pas. Ben oui, parce qu'elle est tellement colorée que celle-là, je ne peux pas la rater. Non.
Sonal. Monsieur Stéphane, après ce sonal louisianais, une bière qui l'est également.
Oui.
C'est la All Honk No Tonk de chez Seventh Tap.
D'accord.
Qui se trouve à Shreveport. Ils viennent d'ouvrir, pardon, une nouvelle succursale, une nouvelle brasserie à Bossier City.
D'accord.
Donc maintenant, il y a deux endroits.
D'accord.
Dans lesquels boire leur bière.
Mm-hmm.
Et c'est une triple IPA, monsieur Stéphane.
Ouh.
C'est pour ça qu'on va se la couper en deux, quand même.
Ouais.
C'est une collaboration avec Wichita Brewing Company.
Oui.
Et c'est une bombe fruitée de 10% d'alcool quand même.
Ah, quand même.
C'est pour ça qu'il faut ça couper en deux,
10%.
Oui. 10%.
Ouais.
Au niveau des houblons, c'est des houblons néo-zélandais qui sont très à la mode.
Oui.
T'es prêt pour la liste des houblons?
Absolument.
Nectaron.
Oui.
Riwaka.
Que j'ai bien connu.
Nelson Sauvin, qui nous écoute.
Trop facile, là.
Et Motukea.
Motukea, évidemment, qu'on connaît également.
Moi, j'aime beaucoup les Motukea.
Ouais, voilà, Moto Ikea. C'est ça. Mais quel est donc ce 10%?
Oui.
Ah, ouais, c'était à Shreveport, tu sais que Bossier, c'est juste à côté. Bossier, c'est presque une espèce de gros. De grosse ville composée de deux villes, en fait. Voilà.
Ah, ouais, d'accord.
C'est attenant. Donc, à mon avis, il se tire la bourre. Tu vois, moi, je fais ça. Enfin, voilà.
D'accord.
C'est tout à fait dans l'angle à gauche de la botte, au nord. C'est absolument plus du tout cajun.
Ah non, bah alors là, il n'y a rien de cajun.
Rien de cajun.
Non.
Voilà.
Monsieur Stéphane, j'ai un petit peu peur qu'elle nous explose à la figure.
Oui, donc je vais me retirer.
Parce que tout à l'heure, je l'ai regardée, elle était toute, toute de go, normale, en hauteur, elle se tenait debout.
Ouais.
Et là, je suis allé la chercher et elle était sur le côté, elle était couchée.
Feignasse.
Donc, j'ai bien l'impression qu'elle était un petit peu violentée.
J'ai bourré cette occasion.
Je pense qu'elle va nous exploser la figure.
Mais nous l'espérons tous.
Alors bon, on se la partage comme je l'ai dit, donc voilà, je ne vais pas expliquer à chaque fois, allez, je la verse dans un gros verre et puis je la coupe en deux, ça, vous savez ça.
Bon. Je m'écarte.
Ouais, j'ai un petit peu peur là, j'ai un petit peu peur, je vais pas vous le cacher là.
Ah, ben oui, un petit peu quand même, tu m'en as foutu un petit peu.
Ça, non mais ça c'est juste la condensation sur le titre. Ah bah ouais, c'est rien ça. C'est rien du tout ça.
Oh là, oui.
On sent les 10 degrés déjà.
Ouais.
Allez, j'y vais.
Une couleur qui est vraiment très intéressante.
Alors, monsieur Stéphane, vous mettez le nez dessus.
Oui, on est dans du connu. C'est-à-dire maltais, brioché même. Évidemment, fruits tropicaux, peut-être présence de fruits rouges.
Hein? Eh ben, on va se la couper en deux, et puis après, on va voir ça en détail. Jazz à papa. Monsieur Stéphane, je vous donne en main la All Honk No Tonk de Seventh Tap. Alors bien sûr, c'est une vanne sur Honky Tonk. Hein.
Ouais.
Et puis Honk, il y a un jar sur l'étiquette. Je n'ai pas les mots aujourd'hui. C'est quoi comment ça s'appelle? C'est une oie, voilà.
Une oie.
C'est une oie.
Un jar.
Oui, bah c'est le mal de l'oie.
Eh oui,
le
voilà.
Jar.
Évidemment.
Le mot jar est arrivé avant le mot oie. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Le cerveau humain des
fois. Jean-Michel Jarre.
Absolument.
Pour ça.
Voilà, c'est pour ça.
Voilà. Donc,
alors,
la couleur déjà, c'est une purée d'orange. Tu vois, c'est vraiment, on dirait, c'est un jus de fruits magnifique, magnifique, avec une très grande densité. On n'y voit absolument pas à travers, et c'est ce qu'on aime. On dirait qu'elle veut sortir du verre, tellement. Et la mousse, un doigt de mousse, mais très, très sympathique, très laiteuse.
Oui. Moelleuse.
Moelleuse. On peut voir... mielleuse, peut-être. Et on peut voir, rien qu'en regardant une bière, on peut subodorer la qualité qui la constitue.
Et là, alors, qu'est-ce que vous en dites de la qualité qui la constitue?
Qui la constitue, ben là, au niveau purement esthétique, c'est une des plus belles bières que nous ayons eu à boire.
Oui.
Car elle est vraiment très, très belle. Vous imaginez de la purée d'orange et purée de pamplemousse, parce qu'on est dans une teinte qui est plus proche du pamplemousse.
Oh, tu me donnes soif, là.
Purée de pamplemousse. Aïe, 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 franchement.
Allez, on la met au nez, on met le nez dedans.
Oui. Alors, il y a un petit côté fumée de cheminée, je ne sais pas si tu sens.
Ouais, qui est fugace quand même.
Qui est fugace, Michel, évidemment, ça, bon, on le fera tout le temps. Hein. Il y a un côté, on ne sent pas trop, hein, attention, on ne sent pas trop le côté aromatique.
Moi, j'ai le côté mangue.
Ouais.
Ouais, côté mangue litchi.
On sent l'alcool.
Oui, bah oui, 10 degrés, c'est normal.
On sent l'alcool, une sorte d'alcool blanc. Qui ne me satisfait guère, mais bon.
Un côté vert, un côté lime, tu sais.
C'est ça.
Citron vert.
Citron vert. C'était plus engageant à la sortie de la cannelle. Là, je sens vraiment un truc d'alcool.
Eh ben oui.
On a senti des choses bien meilleures. dans ces bières-là. Là, pour moi, c'est un peu boozy.
Ouais.
C'est un peu, justement, fumeux.
Moi, je sens pas la fumée.
J'ai du mal à apprécier les agrumes qui la constituent.
Ouais, on sent pas beaucoup d'agrumes, non. À part le, comme j'ai dit, le citron vert.
Ouais. C'est-à-dire que le premier nez, c'est un nez d'alcool, avec derrière, au mieux, effectivement, on est le citron vert. Alors qu'au sortir de la canette, je pouvais sentir du brioché, un petit peu. Je n'aimerais pas que cette bière nous déçoive. Bon. J'ai connu des nez beaucoup plus engageants.
On y va ?
Ouais.
C'est parti.
Non, ça va, c'est correct. Ouf.
Ah oui.
J'ai un peu peur. Je trouve un goût de céleri, monsieur.
Ah oui. Oui.
Un goût de céleri, de poivre blanc. De... Pas mal, ça. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est... céleri, poivre blanc...
Ça change des citras...
Ouais. Le problème, c'est peut-être c'est ce qu'on sentait en nez, c'était un côté céleri, tu sais, parce qu'on ne sentait pas quelque chose d'exotique. On sentait quelque chose de plus plat, en fait. C'est très, très bizarre. Bon, là, l'alcool, ça va.
Oui.
Ce qui est très appréciable, c'est justement ce goût de céleri, de poivre blanc. On est plus... Voilà, c'est ce que je sentais, quelque chose de plus légumineux. Et j'avais un peu peur, tu vois, je me disais, ça sent la fumée, il ne faudrait pas que ça sente la cagette pourrie, tu vois, le melon pourri.
Non, non.
Non, fort heureusement, non. Bon, ce n'est pas la meilleure qu'on boit, à cause de ce nez qui n'est pas engageant. Ensuite, la qualité gustative est tout à fait honorable.
C'est surprenant au goût parce que au visuel on s'attend à au grand classique Citra, genre Ghost in the Machine, tout ça. Ben en fait pas du tout parce que les houblons sont complètement différents et le profil du goût est complètement différent.
Voilà, ce que je n'aime pas, c'est la rupture entre le nez et la bouche. Le nez pas terrible, la bouche beaucoup plus intéressante. Bon, c'est mieux quand ça fonctionne dans ce sens-là que dans l'autre sens.
On a eu l'inverse, hein. On a eu l'inverse dans le podcast. Super nez, et après tu bois la bière, tu goûtes la bière et oh.
Non, là le nez demeure céleri un petit peu, ouais, légumineux quoi. Ouais. Non, c'est
un côté melon.
C'est ça. Oui, mais j'avais
melon d'Espagne, melon.
Voilà, melon, mais tu vois, j'avais vraiment peur que ça soit cagé de pourri de légumes quoi.
Non, elle me plaît. J'aimerais bien qu'elle soit en dessous de 10%, c'est beaucoup trop.
Oui, c'est beaucoup trop, ça me... Ouais. Il y a un problème aussi au niveau du degré d'alcool qui est trop élevé par rapport au rendu, par rapport à la qualité. Si on avait une bière à 10 degrés, mais avec des parfums inédits, c'est pas non plus la plus complexe qu'on ait eu l'occasion de boire, c'est pas non plus la plus évolutive. Bon... On n'est pas dans proche du golfe du Mexique, là-haut, on est déjà près de l'Arkansas.
Ouais, hein, c'est peut-être pour ça.
Pourquoi aller chercher des houblons de Nouvelle-Zélande alors qu'avec les houblons connus de Californie, tu vas faire des trucs exceptionnels?
Je ne sais pas, ils ont voulu faire quelque chose de différent, je
pense. Il y a ça aussi dont il faut se méfier. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
Ouais.
Donc,
l'amertume est quand même bien présente.
Oui, mais... C'est loin d'être une des meilleures dans cette catégorie-là. Bon, on est au-dessus de celle qui était carrément mauvaise, parce que ça peut arriver. Hein.
Oui.
Des trucs qui avaient le goût de vodka orange.
Oui.
Et qui avaient la couleur de vodka orange aussi.
Non, là, je dirais que c'est pas mauvais, mais c'est milieu de classement. Alors, sachant qu'on est difficile. C'est-à-dire, j'imagine qu'il y a des endroits où ce genre de bière, tu peux même pas en trouver. Enfin, c'est pas que j'imagine, je le sais. Si tu vas dans le Vaucluse, dans les petits patelins, dans les Super U, il y a pas une seule New England IPA.
Voilà.
Et ça, on trouve ça au supermarché local chez nous. Donc, bon, faut pas se plaindre non plus.
Mais tu vois, on est là aussi
pour ça. On est spécieux.
Oui, on est là pour ça, pour conseiller, parce que si les gens veulent acheter ce type de bière sur Internet, mieux vaut leur... Déjà, ils vont payer très cher.
Oui, celle-là, c'est pas la peine.
Voilà, exactement. Mieux vaut leur conseiller le haut de gamme, la qualité, ah oui, l'incontournable, ouais. Voilà.
Là, vous êtes, celle-là, vous n'êtes pas obligé.
Non. Pourtant, ils font des très bons produits. Ils font justement une lager brune que...
Oh !
C'est pas ça que nous avions bu ? Ben si, c'est la brasserie, c'est la brasserie.
Seven Tap ?
Ou alors il y en a une autre.
Je sais qu'on avait déjà bu une Seven Tap. Ouais. Je sais plus ce que c'est.
Je ne sais pas, mais je sais qu'il y a une brasserie de Shreveport, moi, je pense que c'est celle-là, qui fait une dark lager que nous avions chroniquée, qui est absolument exceptionnelle. Voilà. Là, c'est pas exceptionnel.
Non. C'est pas mauvais.
Oui. Manquerait plus que ça soit mauvais.
Mais c'est pas exceptionnel, c'est vrai.
Bon.
Je suis en train de chercher la Dark Lager. Je ne sais pas de quoi tu veux parler.
Oh, il fut un temps. Il fut un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Mais c'était quand? Ouf, tu te souviens?
Il y a fort longtemps, je ne sais plus. Ah. Je ne sais plus.
Bon, ben moi non plus. On va voir au Nice, moi, c'est 15,5.
Allez. Exactement. Moi, voilà. Je mets 15 même.
Ouais. Non, moi, je l'aime bien. J'aimerais bien qu'il descende le degré, quoi. Qu'il nous la mette à 6 ouais. degrés. S'il ouais. nous la mette à 6, ça va. Là, 10, c'est too
ouais.
much, quoi.
Oui.
C'est exagéré, quand même.
Oui.
Pourquoi? Quel est l'intérêt de mettre 10 degrés
ça
là-dedans?
Ça n'apporte rien, si ce n'est apporter un côté, un nez et un goût d'alcool blanc.
Ouais.
Et mon estomac me le reproche, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une bière idéale pour se bourrer la gueule, quoi. On peut aussi. Hein.
Oui. Ouais.
Non. En plus, on la partage, donc...
T'imagines, bah, moi j'en ai bu une entière, ouf.
Wow, non.
La première, je l'ai bu une entière, je sais pas pourquoi, j'étais vraiment dans l'état d'esprit, je me suis régalé. La deuxième fois que j'en ai bu une, j'ai pas pu la finir.
Non, je comprends. Non, ça vaut un petit 15. C'est amusant parce que je disais, avec la couleur, on peut subodorer.
Ouais, bah ouais, en fait.
Mais après, oui, dans un premier temps, mais après le nez, c'était déçu. Et en bouche, j'étais rassuré parce que ça aurait pu être pire.
Non, c'est pas mauvais.
Mais ça reste très bousy, très gnôleux. Et c'est une petite New England IPA.
Impériale triple, mais petite.
Toi, t'as déjà fini, là. Boum.
Oui, parce que j'ai soif, mais c'est tout. N'y revenez pas, quoi.
Voilà.
Il m'en reste une dans le frigo, je sais pas quand est-ce que je vais la boire.
Ouais. C'est ça, le problème, c'est que quand on a des bières... Comme moi, tu sais, j'ai des Irish.
Oui.
Eh bien, j'en ai bu une que j'ai trouvée puissamment dégueulasse.
Oui, à O'Hara, là.
O'Hara, c'est-à-dire, bon, j'en avais parlé lors de l'épisode, tu mets du bois dans de la Guinness, c'est très bien, la sûre.
Bonne idée, ça. Voilà.
Et j'étais excessivement déçu, donc depuis le pack, heureusement, c'est que 4 bières. Le pack, il est là, il va peut-être avoir un record de longévité.
Je vais la goûter, tu vas m'en donner une.
Ouais, d'accord.
je vous dirai. Bon,
peut-être qu'elle sera bien, bien mise en forme et tout
bien
ça.
Bien mise. Voilà. Elle sera bien, elle est bien mise.
Elle sera bien mise.
Ah, ça, j'aime bien cette expression surannée.
Ouais.
Elle est bien mise.
Elle est bien mise.
Dans le même ordre d'idée, elle fréquente.
Ouais,
elle
ça, c'est fréquente. Vrai, ouais, ça, c'est vrai.
Elle fréquente.
Ouais.
Elle se fréquente.
Il se fréquente.
Enfin, monsieur Stéphane, toi, on est en train de fréquenter la bière à 15 Wawa 11, c'est pas mauvais, mais bon, on n'y revenait pas, quoi. Seven Tap, ils nous ont habitués à mieux. Au passage, un stout blanc que tu as trouvé absolument irrésistible deux fois, que tu n'as pas pu t'empêcher de boire, alors que je te l'avais amené pour l'épisode.
C'est normal, c'est un genre de bière qui ne sera jamais chroniquée, c'est
non,
son style.
Elle est trop bonne.
Alors, je ne sais même pas si je vais la finir, en définitive. Bon.
Ouais, tant ça, je te vois, je te vois
même
tourner
si
autour.
Il y a des choses intéressantes, mais c'est le côté 10 degrés, c'est le côté... il y a des choses intéressantes, je sens un côté réglisse là, qui apparaît. Mais c'est too much. Beaucoup trop d'alcool. L'alcool tue l'alcool.
C'est vrai que c'est trop. J'aimerais bien leur demander pourquoi 10. Pourquoi quelle est la finalité de ce 10%?
Ouais,
est-ce que vous pouvez la faire à 6%?
Oui, parce que là, ça n'apporte rien, si ce n'est que j'ai les jambes qui flageolent, j'ai la tête qui tourne. Voilà, enfin, bon, c'est tout.
J'ai la rate qui se dilate.
Voilà.
Bon. Ouais. Eh bien, ce qu'on va faire aussi, c'est écouter le sonal du conseil de voyage de la semaine.
Bien sûr.
Et puis, on s'en reparle de l'autre côté.
Allez, à Shreveport, il y a un downtown qui mériterait d'être revitalisé, mais il y a encore des trucs assez intéressants. Oui, comme tu dis. Par contre, il y a le studio d'enregistrement. Non, pas. Y a,
mais bon, on en parle tout le temps de ça.
Oui, bah, c'est le seul truc.
De James Burton, parce qu'il est de là.
Voilà. Ce qui est terrible, c'est de faire la route Shreveport-Dallas. Parce que tu peux imaginer, c'est quand même Dallas, c'est une énorme ville.
Ah, oui.
Et là, tu te retrouves sur une deux voies. Mm-hmm. Qui passe à un moment donné une rivière, ce qui fait que tu n'as pas vraiment le choix de prendre d'autres routes et tu fais la course avec des camions. Quoi. C'est les routes, quand tu es touriste, tu n'as pas envie de... Voilà. C'est comme la route Memphis-Nashville, la route officielle. Mm-hmm. C'est très pénible parce que là, tu as des camions. Voilà, tu as des files de camions et puis après, tu as une autre file à gauche pour les dépasser. Et là, c'est exactement la même chose. Donc, encore entre Nashville et Memphis, c'est tout à fait possible de prendre une route là, qui est vraiment très intéressante. Mais là, t'es sur l'eau à un moment donné, donc...
T'as
pas le choix. Et quand t'es en vacances, que tu as l'impression d'être sur le périph' parisien, peut-être pas, quoi.
Oui, bah, c'est pas... Le paysage, c'est pas le même, quand même.
Ouais, mais là, c'est pas terrible non plus.
Quand même, un peu mieux, quoi.
T'es coincé entre deux camions.
Tu dis que Dallas, c'est immense. Oui, c'est immense, mais quand je suis passé vraiment dans le downtown de Dallas, j'ai traversé Dallas pour revenir en Louisiane du Montana. Mm-hmm. J'ai pas trouvé ça aussi... Dans mon esprit, c'était immense, et j'ai trouvé ça plus petit que dans mon esprit.
Mm-hmm.
C'est... À côté, je trouve que Houston est beaucoup plus tentaculaire.
Houston est plus grand, déjà.
Ah, ben voilà. Ouais, dans ma tête, Dallas est plus grand que Houston, et en fait, non.
Non, Houston, c'est un circuit automobile. Souvent, les grandes villes texanes, bon, on mettra à part San Antonio, qui est absolument magnifique.
Là, rien à voir.
C'est obligé, visite obligée.
Ah, oui.
Austin, qui a quand même un charme, bon, avec toute la culture locale, vraiment, c'est très bien. Mais que tu prennes toutes les grandes villes, Houston, c'est que tu t'es perdu, quoi. Tu n'as plus le choix, ou tu connais quelqu'un. Et même le Boc, que j'adore, parce qu'il y a Buddy Holly, mais c'est une ville qui est plus petite, mais c'est un circuit automobile, quoi. Le downtown, c'est occupé par des trottoirs hyper larges et des cabinets d'avocats. Tu n'as même pas... t'as pas marre, non, t'as pas ça, quoi. Ils n'ont même pas fait encore le... Non, ils n'ont pas fait la transition, ils sont toujours restés...
Très bien.
Donc, voilà.
Ben on passe au Sonal et on parle du conseil de voyage.
Les conseils de voyage, évidemment.
C'est parti. Monsieur Stéphane, le conseil de voyage de la semaine fait partie de mes fun facts sur la Louisiane.
Ouh.
Donc, c'est ma nouvelle série. Celui de cette semaine, c'est le transfert de la Louisiane de la France aux États-Unis a été effectué dans le bâtiment Cabildo, qui est en plein cœur du quartier français à Nouvelle-Orléans,
oui.
Juste derrière Jackson Square, complètement collé à la cathédrale.
Oui.
Et ça s'est passé le 20 décembre 1803, monsieur.
Et nous y étions déjà, là.
Oui.
Nous y étions déjà.
Et le musée Cabildo, maintenant qui est un musée qu'on peut bien sûr visiter, il y a le masque mortuaire de Napoléon.
Oui, c'est vrai.
On rentre et c'est la première chose qu'on voit, c'est ça.
Les napoléonâtres, donc, doivent venir.
Ah, il faut y aller. Alors, je ne sais pas combien il existe de masques mortuaires de Napoléon dans le monde, mais en tout cas, là, il y en a un.
Je sais pas, moi j'ai mieux connu César que Napoléon personnellement.
C'est vrai. Napoléon, je trouvais un peu pisse-froid, pas très sympa.
C'est les Napoléonâtres, ils vont.
Le gars qui essaie pas de te connaître, tu sais.
Ouais, c'est
un peu quant à soi, un peu.
Il avait un accent corse aussi.
Oui, non, mais ça c'est pas grave ça. Mais c'est juste que tu vois, c'est le gars, il est pas ouvert quoi, pas sympa.
Tu t'appelles Patrice.
Le gars, il sait pas te connaître, sympa. J'ai pas eu un bon feeling.
Les Napoléonâtres, ils ont le choix entre Fontainebleau, Monaco et de la Nouvelle-Orléans. Et bon, j'imagine Ajaccio,
puis Sainte-Hélène aussi.
Oui, ils peuvent s'y perdre. Oui. L'île d'Elbe aussi,
voilà.
Plus intéressante, déjà beaucoup plus intéressante, à mon avis. Enfin, voilà, si tu aimes Napoléon, c'est bien.
Il faut aller au musée Cabildo.
Voilà.
Pour te recueillir sur le. Ah ben, il y a aussi le Panthéon, monsieur Stéphane.
Bah oui, évidemment.
Voilà.
Voilà, bon.
Et puis la cathédrale Notre-Dame et tout ça,
voilà.
Tout ça.
On va faire le conseil de voyage pour les
Napoléoniens.
Voilà.
Pour nos amis en bicorne.
Voilà.
Monsieur Stéphane,
oui.
pour nos amis qui ne portent pas de bicorne,
oui,
en revanche.
C'est bien dommage, c'est très élégant.
Voilà. pour nos amis qui portent des bonnets phrygiens, par exemple.
Oui.
Pour les Jeux Olympiques.
Absolument.
Eh bien, nos coups de cœur.
Nos coups de cœur. Me permettrais-je de commencer ?
Mais oui, mais c'est,
alors,
je vous invite.
Nous avons souvent parlé de ces artistes de variété, tout ça, qui se mettaient au rock ball.
Oui.
Rock ball.
Oui.
Tu sais, parce que c'était la tendance, c'était la mode, ces artistes country qui venaient au rockabilly. Tu
parles de quelle année, quelle période ?
Ah, mais là, je parle de 1957.
Ah, d'accord, préciser. Oui. Je crois que tu parlais des années 2000, parce que c'est arrivé aussi.
Non, Michel Sardou n'a jamais chanté du rockabilly.
Et pas Françoise Hardy qui a fait du. Ah non, ou c'est qui a fait du. C'est pas Ariel Dombal qui a fait du rockabilly.
Bien sûr que si, monsieur.
Voilà, je crois que tu parlais d'Ariel Dombal, parce que tu en parles tout le temps d'Ariel Dombal.
Tout le temps.
Donc, c'est pour ça que chaque fois, pour moi, quand tu commences à parler de chanteurs, pour moi, j'imagine que tu vas parler.
Non, je parle de son mari aussi, que j'apprécie et qui nous écoute. Et qui nous écoute.
Bah oui.
Ah ouais, il s'agit d'un artiste dont nous allons parler aujourd'hui. C'est Guy Mitchell.
Guy Mitchell.
Ou Guy Mitchell, en français, Guy Mitchell.
C'est le frère de.
Ben évidemment. Voilà. Et c'est quand même quelqu'un qui chantait Singing the Blues.
D'accord.
Cette chanson qui est connue dans toute l'Anglomanie, tous les pays.
Marty Robbins.
Oui, mais il y avait lui aussi. Et c'est lui qui a eu un succès en Australie. On nous écoute en Australie.
Ah, bah voilà.
Je vous rappelle qu'on est quand même maintenant classé au top 50 en Australie.
Non, c'est pas ça. C'est que dans notre top à nous.
On est classé au top
20%. 50. Et non, on n'est pas dans le top. Non, on ne dit pas ça.
On est presque plus célèbre qu'à Bas maintenant.
Mais attention, oui.
En Australie.
Oui, mais attention, on est remonté dans les classements en Russie en revanche. Ça, c'est pas des bêtises.
Là, il faut pas dire la vérité.
C'est vrai.
Mais c'est la vérité.
On monte dans les classements en Suisse et en Russie.
Oui, mais là, on va être censuré en France.
Tant pis.
Parce que là, comme étant pro-russe, tu vois.
J'ai jamais dit que j'étais pro-russe.
Mais attention.
On parle des gens qui nous écoutent.
C'est tendancieux.
D'accord.
Attention.
Bon, pardon.
Voilà.
Donc, l'Australie alors.
Voilà.
C'est l'Australie qui remonte dans nos classements à nous, tu comprends ?
C'est très bien.
Voilà.
Et donc, nous parlons de l'artiste américain qui a eu aussi du succès en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, en Australie.
Comme les houblons de la bière de la semaine.
Ah, absolument, mais tout se tient. Alors, le morceau que vous entendez en fond sonore, vous en avez compris le titre, puisqu'il le répète à l'envi, n'est-ce pas ? Ce titre, malgré tout, était composé par Joe Madison et Roy Orbison.
Oh bon ?
Eh ben oui, le Roy. Pourquoi il ne s'est pas gardé pour lui, le Roy ? Pourquoi il ne s'est pas gardé ce morceau ?
Hein ?
Alors, bon, Guy Mitchell, ou Guy Mitchell. Voilà, qui était chanteur, acteur, voilà, très, très populaire. Tu vois sur la pochette que c'est déjà un gars qui n'est pas un adolescent.
Ouais.
Tu vois, et puis tu regardes d'autres vidéos, et c'est un entertainer. Enfin, c'est un petit peu comme si Maurice Chevalier avait fait du rockabilly. Enfin,
d'accord.
Voilà, pour faire simple.
Guy Mitchell, ça fait un peu sosie Seine-et-Marnais de Guy Mitchell.
Ouais, il est né avant, quand même. Et le titre, vous l'avez compris, puis c'est Rockabilly. Il dit Rockabilly, 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 Rock, Rock. Eh ben voilà.
Comme disait Alex Mettier, n'oublie pas de les déposer à SACEM, ça serait dommage de te les faire piquer. Ça serait dommage.
Ce qui me fait rire. C'est que 20 ans après, on expliquait aux gens mais ce que c'était le rockabilly. Bon, ça va, si tu n'avais pas chopé le truc.
Si tu n'as pas compris, c'est que tu n'as pas compris.
Voilà, alors bon, je pense pas que je vais chanter en même temps que le morceau, parce qu'on vous dit ça, Patrice n'a pas entendu le morceau, mais on va le mettre en ligne. Mais bon, voilà, je vous explique un petit peu la teneur du texte, qui est quand même un texte assez profond.
Comme je le répète, j'espère qu'il les a déposés à SACEM, ces paroles, parce que c'est quand même assez.
Voilà, puis si on a dépassé le nombre de minutes de la chanson, on pourra vous glisser Singing the Blues, qui est un morceau les plus connus de la langue anglaise, entre anglophones.
Oui.
Voilà. Tiens, d'ailleurs, je visionnais une vidéo sur les anglophones dans le monde. Enfin, combien de gens parlent c'est énorme. En année, au milliard et quelques, quoi.
Ah, quand même.
Oui, c'est long. Oui. Parce qu'entre ceux qui, sont véritablement nés anglophones, et tous les autres qui utilisent l'anglais comme langue seconde, comme le Pakistan ou l'Inde, puis sans compter tous les gens qui speaks very well.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça inclut les Lukadzi, par exemple?
Voilà, les Lukadzi. Alors, c'est très rigolo parce que ce gars que je suis depuis de nombreuses années, il est prof d'anglais à Paris.
D'accord.
Et donc, il y a une étude qui disait, à peu près 57% des Français se débrouillent en anglais, et à Paris, ça monte à 67%. Lui dit Lui dit non, moi je vais à Paris, non, là c'est très exagéré.
Ah bah oui.
C'est très très exagéré.
Ah, oui.
Bon.
C'est marrant, tu me fais penser à ça. J'ai regardé l'autre jour le documentaire sur Netflix sur l'enregistrement, sur bah, déjà l'écriture et puis sur l'enregistrement, l'organisation de la séance d'enregistrement et l'enregistrement de We Are the World, le fameux morceau des années 80 avec toutes les grandes stars. Et à un moment, ils font un petit peu dans le monde entier, au moment où le morceau est sorti. Bien sûr, ça a été joué sur les radios dans le monde entier. Mm-hmm. Et tout d'un coup, on voit un DJ à la radio et il dit « We are the world
!» Oui.
Et je dis « C'est quoi ça ?» Et derrière lui, il y avait l'autocollant Énergie. Je dis « Bah oui, voilà. »
Ah, bah ouais, c'est normal.
« We are the world !»
Alors, cette vidéo que je regardais, c'est le gars expliquait que l'anglais, un dialecte qui était menacé, est devenu une langue dominante. Voilà, parce qu'à un moment donné, même en Angleterre, l'élite parlait français, monsieur.
Ah bah oui, bien sûr, bah, bon, après 1066.
Voilà, et puis leur anglais...
Guillaume le concurrent, voilà, conquérant, voilà, concurrent aussi.
Guillaume le concurrent, Guillaume le concurrent...
Qui revient la semaine prochaine.
La semaine prochaine, en deuxième semaine. voilà.
Mais tu sais que c'est pour ça qu'ils appellent pork, tout ça c'est des mots français.
Oui, bien sûr.
Ouais. Je crois que c'est 30% des mots en anglais qui viennent du français.
Même beaucoup plus. Même beaucoup
je crois que c'est 30%.
Ou 3,
ouais, ouais, il faudra chercher, mais je crois que c'est 30%.
C'est énorme.
Tout ce qui est pork, tout ça, c'est porc.
C'est énorme, c'est énorme. J'avais vu une émission, je parle à l'ancienne,
oui.
Une vidéo où justement il en parlait de ça.
Un programme
télévisuel. Et en fait, bon, voilà, en fait, c'est une langue. Là, et puis bon, avec douleur, nous a rappelé que le latin, à un moment donné, était la langue universelle.
Ouf.
Et puis c'est un français.
Oui.
Voilà, c'était français. Et puis maintenant, c'est l'anglais, évidemment.
Oui.
Puisque même, ils ont même un président en France qui parle anglais.
Il paraît. qui dit que la femme du président est délicieuse et tout ça.
Trump, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais par contre, il a des talents d'artiste. Quand il s'est moqué du président...
Oui, non, mais il sait faire que ça, lui.
Ah oui, mais il le fait bien. Là il l'a bien fait.
Ah mais
fait.
Oui, non, mais ça, c'est le gamin de CP qui intimide les plus petits que lui. Voilà,
ouais,
c'est
non,
ça son talent.
Non, là, il l'a bien fait. Non, là, je
si on appelle ça un talent, d'accord.
Ah ouais.
Mais bon.
Et quand il disait que, bon, à un moment donné, tu sais, la France menaçait d'augmenter les taxes sur les produits américains importés. Bon, je me demande quoi, les Harley-Davidson, les jeans, je ne sais pas. Je sais pas vraiment ce que les États-Unis exportent en France. Et que Trump lui a dit, on va faire ça sur les vins et les fromages. Et il a dit, alors, la vidéo peut se trouver facilement. Il a fait, oh non, Donald, don't do this, Donald. J'ai trouvé qu'il était très français, bah oui.
Non, mais il sait faire que ça.
Ah, voilà. Mais c'est vrai, mais bon, il avait bien chopé l'accent.
C'est mon papa est plus riche que ton papa dans la cour de récré de CP. Si on appelle ça un talent, d'accord.
Ah ouais, mais là, bon, là, c'était voilà. Bon, par contre, j'ai pas l'impression que son électorat et tout ça ait compris la vanne. C'était du genre.
Ils comprennent pas grand chose.
Pourquoi il dit ça ? Enfin voilà.
Non mais c'est pas grave. S'ils comprennent ou pas, ils applaudissent.
Voilà. Donc voilà. C'était. Voilà.
Par exemple, l'autre jour, il s'est moqué du fait que Joe Biden bégaye, qu'il a bégayé très longtemps dans sa vie et qu'il a travaillé pendant des années pour plus bégayer. Et Trump n'a rien trouvé de mieux à faire que de se moquer de ça. C'est super.
Voilà.
C'est génial.
Ouais, c'est bien.
L'autre, une fois, pendant je ne sais plus en quelle année c'était, il y avait un reporter qui est handicapé. Il a fait genre, il était dans un meeting, Trump a fait genre, il s'est moqué du journaliste handicapé. Super. Super niveau. Alors, si ça, on appelle ça du talent, effectivement, il est talentueux.
Ouais, ça dépend de la cible, en fait. Voilà.
Bref, on va sortir de cette conversation épineuse.
Oui, tu sais, cette conservation.
Bon, tu viens de parler du président français. Le nouveau truc, le nouveau complot chez les complotistes américains de droite, c'est que Brigitte Macron est un homme. Voilà.
Ça j'ai vu, ça, des trucs comme ça.
Non, mais ça, on vole, là, on est dans des niveaux, là, on est proche du plancher des vaches. Bon, on sort de cette conversation épineuse, monsieur Stéphane. On peut expliquer que mardi, nous avons eu une visite.
Oui.
De deux journalistes de France 2.
Ouais. Si ça sort,
on
sera crédible. Si ça sort pas, on passe pour des mythos.
Oui, non, mais ça, oui.
Mythomanes, ils sont mythomanes, les gars.
T'as entendu ce qu'ils ont dit ?
Ils sont mythomanes, quoi.
Ça raconte.
Voilà.
Non, en fait, j'ai été approché, comme on dit.
Écoutez, tu as pris des photos ? Est-ce qu'on a pris
mais
des photos ?
Mais non, on n'en a pas pris.
On est super nazes.
Oui.
Bon, à la limite. Bon.
C'est vrai qu'on ne peut pas le prouver, là.
Voilà.
Comme tu dis, s'ils sortent pas le truc, on ne peut pas le prouver.
Voilà, mytho. Après MeToo, c'est MeToo.
Hashtag MeToo.
Hashtag MeToo, maintenant.
J'ai été contacté par une journaliste de France 2 qui part un peu partout dans le monde. Et là, il venait en Louisiane avec, eh bien, avec un caméraman que nous avons également rencontré, et pour filmer un petit peu un jour dans la vie de, d'un Français qui s'est établi en Louisiane et qui y est resté. Et ils m'ont demandé si je voulais. Bah, je lui ai dit, bien sûr, bien sûr. Mmh. Et donc, ils sont venus dans mon école, filmer avec mes élèves et tout ça. Et puis après, ils m'ont filmé en train de revenir chez moi en voiture. Et puis après, ils nous ont filmé en train de faire...
du podcast.
La vie est trop courte pour boire de la bière. Et alors, j'espère que ça sera... J'imagine que ça sera dans le sujet. Et puis après, on les a amenés dans un bar au bord d'un canal.
Oui.
Ils ont interviewé mon épouse, etc., etc. Tout ça, normalement, sera dans le petit sujet. Alors attention, ça sera en parallèle avec un autre Français qui habite à la Nouvelle-Orléans. Donc ça sera un petit peu en portrait croisé.
Voilà. Puis en très concentré, évidemment.
Ah oui.
Voilà, parce que sinon c'était 3 heures de...
Oui, non, mais c'est pas intéressant non plus.
Si, c'est complètement essentiel.
Mes élèves qui jouent au loup-garou.
Non, ça, c'est moins intéressant.
Donc, ça sera portrait croisé. Donc, mon autre partie, ça sera, allez, 2 minutes et demie. Voilà, au grand max.
Voilà. Au Grand Rex aussi.
Au
Grand Max et au Grand Rex.
Pourquoi pas?
Allez, partout.
Ça sera, j'imagine, disponible en ligne.
Oui.
Sur le site. Quoi? Il faut taper quoi, Stéphane?
Il faut taper le journal de 13h de France 2. Il faudra marquer la date, quoi.
Oui.
Parce que sinon.
C'est le 15 mars. Le 15 mars 2024.
Du vendredi 15 mars 2024. Voilà.
Il faut parler comme ça quand on...
Absolument.
Quand on l'écrit, même sur le clavier.
Oui.
D'accord.
Voilà.
Et donc, vous avez compris, vous allez nous voir, on espère, parce qu'on n'a pas encore vu.
Oui, journal de 13h.
Oui.
L'ai-je bien dit? Oui,
journal de 13h de France 2 du vendredi 15 mars 2024.
Voilà. Si le reportage a été refusé ou si ça n'a pas pu se faire, on va passer...
Pour des mythos.
Pour des mythomanes. On vous fera la météo. Ouais,
voilà.
S'excuser.
Voilà. J'espère pas quand même. J'espère pas. Donc voilà, j'imagine qu'au moment où vous écoutez ce podcast, ça sera de l'histoire ancienne, ça fera 3 semaines.
Ouh.
Mais ça pourrait se trouver encore, j'imagine.
Oui.
Voilà.
Oui, on pourra mettre un petit lien à un moment donné.
Oui, voilà. Ah bah bien sûr.
Voilà.
Le lien qu'on a mis il y a 3 semaines, vous vous souvenez?
Voilà.
Voilà, il y a 2 semaines. Bon, et donc c'est mon coup de cœur.
Voilà.
J'ai trouvé ça sympa qu'ils viennent dans nos studios.
Oui.
Et nous enregistrer. On était en train de faire une dégustation de la Brain Cake.
Oui.
Et tutti quanti. C'est mon coup de cœur.
Bravo.
Maman, je suis à la télé, maman.
Maman.
Alors, j'ai appris ça à mes parents. J'ai dit, bon, maman, je suis désolé, je crois que je suis un petit peu vieux pour dire maman, maman, je suis à la télé, maman. Voilà, ça m'a fait rire.
Eh bien, voilà.
Voilà, c'était mon coup de cœur. Monsieur Stéphane,
oui.
Le coup de cœur également d'une vie, c'est le sans-paix.
Oui, ça me semble complètement obligatoire.
Ah oui.
D'ailleurs, on leur en a parlé du Sampé.
Oui.
Voilà, si un jour ils veulent aller filmer au San Pellegrino, ils auront toutes les autorisations. Il faudra passer par nous.
Voilà, j'allais dire, il faut passer par nous.
Bon, la difficulté, c'est que c'est un pays mobile.
Oui.
Donc, il faut savoir à un moment donné quel avion prendre pour atterrir dans quelle capitale étrangère avant d'aller en bateau.
Voilà. Donc, il faut bien planifier. Le problème avec le San Pellegrino, c'est qu'on ne peut pas faire un voyage de dernière minute.
Non.
Parce que si ça se trouve, on peut être obligé de voyager à l'autre bout du monde.
Voilà, c'est ça. C'est très compliqué.
Voilà. Donc, il faut s'y prendre un peu en avance.
Voilà.
Et ouais, c'est compliqué, mais bon.
Passer par nous.
Bon, oui, bon, on vous expliquera tout.
Voilà.
Voilà. Allez, envoyez-nous un email.
Nous sommes accrédités.
Tout à fait.
Voilà.
Nous sommes les ambassadeurs de la francophonie au San Pellegrino.
Un petit coup de téléphone à son excellence.
Oui.
Voilà, au cas où.
Un texto.
Un texto, bien sûr.
Voilà. On y va?
Bien sûr.
C'est parti. À l'instar de la Louisiane, le gouverneur du San Pellegrino autorise le port d'armes, mais ce dès l'âge de 13 ans.
Viens que je te présente mon petit-fils.
C'est vrai qu'il ressemble à ta fille. Oh putain, Jamy! Qu'est-ce qui t'arrive?
Je crois que je suis touché.
San Pellegrino!
bien voilà Stéphane, maintenant qu'on est rencardé sur le 100p, on passe à la pub.
Pub.
C'est parti. Jean-Michel Maquet, dans cette année un petit peu différente des trois autres qui viennent de s'écouler, année dans laquelle on a 366 jours au lieu de 365, parce que je le rappelle, tous les ans, 365 jours plus 6 heures, et donc tous les 4 ans, on ajoute ces 6 heures 4 fois, et ce qui fait un jour de plus par an, tous les 4 ans. Et eh bien Jean-Michel, comment vont vivre cet excès de temps, de préparation, et j'ai envie de dire d'efforts. Comment vos hommes vont gérer cette année un petit peu différente des autres au niveau du tonus, au niveau eh bien, de la vitalité des hommes? Comment vont-ils vivre ce temps en plus?
Écoutez, d'abord, je tiens à dire qu'on est professionnels, ça c'est une autre chose. Et que l'année 2024, même si elle est bisexuelle, ça changerait pour nous.
Pour les mises à jour minute par minute sur le championnat de soccer football du San Pellegrino, rendez-vous sur podcut.studio et sur patreon.com/podcut. Voilà, monsieur Stéphane, on arrive à la fin de l'épisode.
Mm-hmm.
Épisode dans lequel on a goûté une bière.
Oui.
Passable.
Oui, moi ouais, vraiment passable, en demi-teinte, voilà.
Ouais, bon, c'est
je
pas...
Je ne finis pas, d'ailleurs.
Non, tu l'as pas fini.
Non.
Tu nous as... Qu'est-ce que tu m'as dit hors micro? On va goûter quoi, après?
Moi, je ne sais pas, je vais peut-être te laisser goûter donc cette O'Hara...
Ouais, je vais la goûter chez moi, pas...
D'accord, Nitro, parce que je crains que... Enfin, moi, je l'ai bu qu'une fois, et j'étais vraiment mais dévasté, parce que justement, je voulais faire la Saint-Patrick.
Ah bah oui!
J'étais parti d'une humeur printanière, n'est-ce pas? J'ai été un peu déçu.
Eh bien, je vais en prendre une canette et je vais tester pour vous.
Alors, peut-être que bon, elle a évolué, peut-être que je ne sais pas, je l'avais transporté dans de mauvaises conditions.
Peut-être que tu étais le mauvais poil.
Peut-être que j'ai joué au rugby avec, je ne sais pas.
Peut-être.
Tu vois, j'en sais rien, voilà. Bon.
Tiens, en parlant de ça, il paraît qu'en Angleterre, il se vend une espèce de gadget pour servir la Guinness Nitro comme au bar.
Oui, mais il y a pas mal de trucs comme ça. Ouais,
c'est un gadget qu'il faut acheter, je crois. Mm-hmm. Et enfin, je sais pas, je me suis pas documenté, mais j'ai entendu parler de ça. Tu connais ça, toi?
Oui, j'ai entendu parler de plein de choses comme ça, effectivement. Ouais.
C'est censé pouvoir te la servir chez toi comme à la brasserie.
Ça a pas aidé les pubs, ça. Mais enfin bon.
Non, c'est vrai.
Voilà.
Bon. De toute façon, maintenant ils servent que de la Foster's. Alors.
Malheureusement, bien trop d'endroits.
Monsieur Stéphane, la semaine prochaine, que fait-on? Quid? Ouais. Quid?
Eh bien, si nous testions cette bière australienne...
Ah ben, je ne sais pas de laquelle tu veux parler, mais
eh
oui.
Ben, moi, je sais, bien sûr.
Moi, je veux bien.
Alors, bon, c'est une bière australienne. C'est peut-être la seule bière véritablement australienne sur laquelle nous pouvons mettre la main ici aux États-Unis. C'est une bière qui... c'est bien parce que je l'avais achetée il y a 10-15 ans. Eh bien, c'était pratiquement le même prix.
Ah.
À l'époque, c'était hors de prix. Maintenant, c'est juste cher.
Ah oui.
C'est genre 15-16 $ le pack de 6.
Ah oui.
Il y a 10 ans, c'était le même prix.
Ah oui, donc il y a 10 ans, c'était très cher.
Voilà. Et c'est une bière qui rappelle que l'Australie était une colonie anglaise.
Absolument.
Voilà, donc ça ne va pas être une bière qui va tout péter, mais pour une fois qu'on peut mettre la main sur une bière australienne, alors bon, évidemment, ici, on n'a pas la possibilité de mettre la main sur des bières australiennes New England IPA de ce style-là, choses comme ça. Mais là, c'est la bière véritablement australienne, non pas comme la Foster qui est faite au Texas,
oui.
Ou je ne sais plus où, à Wichita, ou voilà, enfin qui est faite quelque part aux États-Unis et qui n'est pas bue en Australie. La bière que nous boirons, ben voilà, ben c'est, il fallait mettre quand même à notre catalogue l'Australie. Nous avons mis la Nouvelle-Zélande et il nous manquait l'Australie. Et puis bon. On va peut-être faire l'Amérique du Sud un jour.
Oui, ça nous plairait.
Ouais,
mais
bien,
en restant en Australie pendant quelques secondes, j'aimerais bien que nos auditeurs australiens se manifestent.
Mm-hmm.
On est sur tous les réseaux et vous pouvez nous envoyer des emails à binoususa@gmail.com et nous dire j'habite à plouf plouf Tagada en Australie et je vous écoute. Et ça nous ferait tellement plaisir.
Oui, c'est vrai.
Vraiment, vraiment, j'avais regardé, j'en avais parlé il y a plusieurs épisodes, il y a peut-être un an ou deux. Ah oui, c'était il y a 2 ans.
Mm-hmm.
J'avais regardé un documentaire que j'avais trouvé complètement par hasard sur Prime. Et ça se passait dans un bar au fin fond de l'Australie, vraiment dans la Cambrouse, dans une petite ville, Coolgardie, qui s'appelle. Mm-hmm. Et c'était deux... ils avaient importé deux serveuses. Je ne sais plus d'où elles étaient. Je crois qu'elles étaient peut-être suédoises ou bref, par là-bas. Finlandaises, bref. Et ils cherchaient deux serveuses et ils les ont importées dans ce petit bar, dans cette petite ville en plein milieu de la Cambrousse. Et je regardais les, bah, bien sûr, des formations professionnelles binous. Je regardais les bières qui servaient dans le bar. J'en ai pas reconnu une. Et il y avait les habitués qui rentraient. Ah, bah, je veux une truc. Alors, il y en a une, c'était avec des X ou je sais pas
oui,
quoi.
Oui, oui, effectivement, je la vois, celle-là.
Tu la vois, celle-là? Et t'avais l'autre qui rentrait. Ah, bah, c'est, bah, lui, il boit l'autre. Et j'en connaissais aucun, mais jamais entendu parler, quoi.
Ouais.
Donc, c'est un monde qui nous est complètement, étranger.
Oui, oui. Et moi, il n'est pas étranger parce que je cherche beaucoup, mais je dirais, j'ai jamais eu l'occasion de boire ces bières. Voilà, tout simplement.
Mm. Et donc, manifestez-vous si vous habitez en Australie.
Voilà.
Donc, on fait ça la semaine prochaine?
Oui, sauf si, ce que je ne l'ai pas encore goûté, mais je m'en rappelle l'avoir goûté. Je pense qu'il y a, sauf si elle est vraiment dégueulasse comme l'autre. Comme
ah, tu vas la goûter au préalable?
Oui, au préalable, mais normalement, bah, sinon, on changera d'avis.
Ouais. Ah,
sinon, on boira une croix. Voilà.
Ah, voilà. Ah, bah,
c'est comme ça, changement de dernière minute.
tu as des bières que je t'ai amenées aussi également, qui sont louisianaises.
Ouais.
Qui sont, c'est pas une brown ale ou un truc comme ça, là, que
c'est,
je t'ai.
C'est,
qu'il faudra faire un de ces quatre.
Que je connais, que j'aime bien, d'ailleurs.
Bon, ça presse pas, ça, quand même.
Voilà.
Oh, tiens, retour du retour, c'est marrant, parce que j'ai pas fait de retour du retour cette semaine.
Mm-hmm.
On peut faire un petit coucou à Christophe.
Oui.
Qui nous a envoyé un message sur Facebook.
Ouais.
Et c'est une vidéo d'un type sur YouTube qui déguste la Kronenbourg 1664.
Ouais.
C'est un gars un peu biker, un peu style biker machin.
Ouais.
Et c'est marrant parce que à la fin de son intro, il dit en anglais, bon, avec des mots un petit peu vilains, mais c'est vraiment en essence, c'est la vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Au lieu de dire bière insipide, il est je sais pas quoi avec des gros mots.
Mm-hmm.
Mais c'est la même idée. Donc on a un petit peu comment dirais-je des antennes un petit peu. On a les mêmes idées.
Voilà. D'accord.
Et donc c'est un, je ne sais plus comment il s'appelle ce garçon sur YouTube,
mm-hmm.
mais voilà, merci Christophe, ça l'a fait un petit peu sourire de regarder ça et de dire ah bah tiens, il parle exactement comme, c'est la même formule que les gars de Binouz.
D'accord.
Merci Christophe.
Voilà, en français ou en anglais le gars il parle, le biker?
En anglais.
En anglais, d'accord.
Je te la montrerai après l'épisode. Donc on peut rappeler qu'on est sur tous les réseaux, Twitter, Facebook, Instagram, Blue Sky, mm-hmm. et quoi, c'est quoi le dernier? Threads.
Voilà tout. Partout.
Threads, on n'a pas beaucoup d'engagement sur Threads, il ne se passe pas grand-chose.
Mm-hmm.
Pour l'instant, alors allez-y sur Threads, allez voir, je trouve pas que ce soit terrible, Threads, moi, mais bon, c'est vraiment pas... Je sais même pas si je vais continuer à le garder. Bon, enfin, bref.
On est partout.
Blue Sky, ça va. Blue Sky, c'est une espèce d'alternative à Twitter, sans pub, voilà, avec que des, avec en général des gens sympathiques. Donc, c'est, voilà, ça fait un petit peu Twitter au tout début, j'imagine, quand il y avait un peu moins de fâcheux et de robots.
Oh,
voilà, avant de dire des choses désobligeantes, M. Stéphane,
oui.
On va se quitter.
Bien sûr.
Parce que je vois que ça fait bientôt une heure qu'on déblatère.
Voilà.
Qu'est-ce que tu vas nous dire en attendant la semaine prochaine?
Je conclurai. J'en vais faire un jeu de mots sur des blatères en disant sept blatères, mais là, plus j'aurais perdu, on va perdre beaucoup d'auditeurs.
Oui, ça, moi, j'aurais pas compris non plus.
C'était le gardien de but de l'équipe allemande en 1974.
Oui. Alors là, voilà. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas compris.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on dit à la fin?
Mais que dit-on?
Que dit-on avant de se retrouver?
The news.
We should watch it. I think that one's full.
Ben oui, mais mets-toi plus près, monsieur. T'es beaucoup trop loin.
Tu vas l'ouvrir.
Mais non, mais pas maintenant. J'explique ce que c'est d'abord.
Allez-y, Jean.
Monsieur Stéphane, conseil de voyage de la semaine. Ça fait partie... Je reprends. Pour des mises à jour, minute par minute, sur le championnat de soccer-football de la Nouvelle... Oh, merde. Il faut que j'écrive.